le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 11 août 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sidoulia. Les titres pour commencer, entretien Blinken Kagame aujourd'hui au Rwanda. Au Kenya, duel serré entre les deux principaux candidats à la présidence, Raila Odinga et William Ruto, sur fond d'abstention en hausse. Au Sénégal, l'opposition ne fera pas de recours contre les résultats des législatives du 31 juillet. En Guinée, le collectif FNDC maintient sa manifestation du 17 août, malgré sa dissolution par la junte. Au Mali, le gouvernement confirme le bilan de 42 soldats tués dans l'attaque djihadiste du dimanche à Tessit. Par ailleurs, entretien téléphonique entre le colonel Assimi Goïta, chef de la junte malienne, et son allié russe Vladimir Poutine. Manifestation contre la vie chère en Sierra Leone, deux policiers tués, couvre-feu instauré. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. D'abord, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'entretient aujourd'hui avec le président rwandais Paul Kagame. Il est arrivé tard mercredi au Rwanda, troisième et dernière étape d'une tournée africaine qu'il a déjà conduite en Afrique du Sud et en République démocratique du Congo. On s'attend à ce que les tensions entre Kigali et Kinshasa soient au centre de ces entretiens avec M. Kagame, les Congolais accusant les Rwandais de soutenir les rebelles du M23, ce que dément Kigali. Les Kenyans attendent les résultats des élections générales marquées par une hausse de l'abstention pour savoir qui sortira vainqueur du duel entre le vétéran Raila Odinga et le vice-président sortant William Ruto. Détail avec Ginny Nua.
Sur fond de désillusion envers la classe politique et de flambée du coût de la vie, environ 65% des plus de 22 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes, selon la Commission électorale indépendante. Une forte baisse par rapport à la participation de 78% aux élections de 2017. Selon les premières estimations, Raila Odinga, 77 ans, leader historique de l'opposition, est soutenu par le pouvoir et le vice-président sortant William Ruto, 55 ans, sont au coude à coude. Les discours de campagne axés sur le pouvoir d'achat et la lutte contre la corruption n'ont pas nécessairement convaincu la population qui, pour environ un tiers, vit dans la pauvreté. Si aucun des deux favoris ne recueille plus de 50% des voix, le Kenya va connaître pour la première fois un second tour à la présidentielle. Monsieur Odinga et Ruto, deux puissants et riches hommes d'affaires, ont tous deux promis durant la campagne qu'ils vont accepter les résultats.
Et au Sénégal, la principale alliance de l'opposition a annoncé hier qu'elle ne ferait pas de recours contre les législatives du 31 juillet, dans l'attente des résultats définitifs de ce scrutin. Ces chiffres définitifs doivent être publiés au plus tard jeudi à minuit par le Conseil constitutionnel s'il n'y a pas de recours selon une source proche de cette juridiction. Les résultats provisoires publiés le 4 août avaient donné une courte avance à la formation au pouvoir qui perdait néanmoins la majorité absolue, une première dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. En Guinée, le collectif FNDC, dont la dissolution a été annoncée par la junte au pouvoir, a affirmé mercredi maintenir une manifestation prévue le 17 août dans le pays et dénoncé son bannissement comme une décision illégale sans fondement et arbitraire. Le FNDC a notamment été à l'initiative des manifestations organisées les 28 et 29 juillet, interdites par les autorités et où 5 personnes ont été tuées pour dénoncer ce qu'il a appelé la gestion unilatérale de la transition par la junte. Au Mali, le chef de la junte a eu un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine après réception de nouveaux équipements militaires de son allié russe, a indiqué hier le colonel Assimi Goïta sur son compte Twitter. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Nous avons évoqué l'appui de la Fédération de Russie à la transition politique malienne et j'ai salué la qualité de notre partenariat respectueux de la souveraineté du Mali et des aspirations de sa population, a déclaré Assimi Goïta sur Twitter. Mardi, l'armée malienne a reçu de nouveaux équipements militaires, dont 5 avions et un hélicoptère de combat, au cours d'une cérémonie officielle. La France, qui a quitté le Mali après 9 ans de présence militaire, dénonce le recours à Wagner, une société privée russe. Bamako dément et dit accueillir depuis le début de l'année des instructeurs militaires russes. Par ailleurs, le colonel Assimi Goïta a reçu hier Amina Mohamed, vice-secrétaire général de l'ONU, et Mahamat Saleh Anadif, chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, dans un contexte de tension avec les Nations Unies. Madame Mohamed a été reçue auparavant à Abidjan. Depuis un mois, 49 soldats ivoiriens sont détenus à Bamako, accusés d'être des mercenaires, ce que nie Abidjan qui assure qu'ils étaient en mission pour l'ONU.
Par ailleurs, les autorités de la transition au Mali ont annoncé hier un dé national de 3 jours à compter de ce jeudi, après avoir confirmé la mort dimanche de 42 soldats maliens lors d'une attaque attribuée à des djihadistes à Tessit dans le nord-est du pays, près des frontières du Burkina Faso et du Niger. Un assaut au cours duquel l'armée a neutralisé 37 terroristes. Le précédent bilan faisait état de 17 soldats et 4 civils tués. Au Tchad, 13 personnes ont été tuées et 20 blessées dans des affrontements entre agriculteurs et éleveurs à 700 km à l'est de la capitale N'Djamena, en proie à des conflits meurtriers entre ces communautés, a déclaré mercredi à l'AFP le gouverneur de la région. Les violences entre communautés sont fréquentes dans le centre et le sud du Tchad, où nombre d'habitants sont armés. Ils opposent principalement éleveurs nomades arabes aux cultivateurs autochtones sédentaires, qui accusent les premiers notamment de saccager leurs champs en faisant paître leurs animaux. Des manifestations contre la vie chère en Sierra Leone ont tourné à l'émeute hier à Freetown avec 2 membres des forces de sécurité frappés à mort par une foule appelant au départ du gouvernement. Le point avec Rosine Mounezero.
Dans le quartier de Kissi, à l'est de la capitale sierra-léonaise, des dizaines de jeunes ont lancé des pierres et des bâtons sur les forces de sécurité qui ont riposté en tirant des gaz lacrymogènes. 2 policiers ont été frappés à mort par les manifestants, a indiqué Brima Camara, porte-parole de la police. La manifestation est venue d'un groupe de femmes commerçantes qui a convoqué un rassemblement pacifique pour attirer l'attention sur les difficultés économiques et les nombreux problèmes qui affectent les femmes, selon une lettre adressée à l'inspecteur général de la police. Certaines personnes ont intensifié l'appel à la violence et au renversement par la force du gouvernement légitime, a déclaré le vice-président Mohamed Djoulde Diallo. Des dizaines de manifestants ont été blessés, 2 ont été arrêtés, selon la police.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ancien président américain Donald Trump a gardé le silence mercredi durant 6 heures d'audition sous serment avec la procureure générale de New York qui le soupçonne de fraude financière au sein de son groupe Trump Organization. Il a invoqué le fameux 5e amendement de la Constitution américaine qui permet à tout justiciable de ne pas témoigner contre soi-même. Tout ceci en pleine tempête politique après une perquisition spectaculaire du FBI chez lui en Floride. Le républicain se dit victime de persécutions politiques de la part des démocrates. Par ailleurs, la justice américaine a révélé hier un complot dirigé par un membre des gardiens iraniens de la Révolution pour assassiner John Bolton, ancien ambassadeur à l'ONU et ex-conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Elle a inculpé par contumace Sharam pour Safi, alias Mehdi Rezaï, 45 ans, pour avoir offert $300,000 à des individus aux États-Unis pour tuer M. Bolton, apparemment pour venger la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué en janvier 2020 dans une frappe américaine. Des bombardements russes ont tué au moins 14 civils, dans la nuit de mardi à mercredi dans le centre-est de l'Ukraine, selon les autorités locales, non loin de la centrale nucléaire de Zaporijjia, que Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'avoir bombardé. La Minute Éco, Nanit Talani.
L'Afrique du Sud et le Botswana vont financer l'amélioration et l'extension des liaisons ferroviaires entre leurs deux pays pour stimuler le commerce. La ligne ferroviaire de 126 km devrait notamment favoriser la connexion du Botswana au marché d'exportation et aider l'Afrique du Sud à acheminer ses minerais et son charbon thermique vers les marchés. La Zambie veut supprimer les subventions, dont celle du carburant, à l'horizon 2025. Elle soutient aussi que le conseil d'administration du FMI devrait se réunir à la fin du mois pour approuver un plan de prêt en sa faveur. Lusaka a conclu un accord avec le FMI sur une facilité de crédit prolongée de 1,4 milliard de dollars sur 3 ans en décembre, sous réserve de sa capacité à réduire la dette à des niveaux que le fonds juge durables. En juillet, les créanciers officiels de la Zambie se sont engagés à négocier une restructuration de sa dette. Pour terminer, plusieurs pays d'Afrique subsaharienne vont bénéficier de 2 milliards de dollars sur 10 ans des États-Unis pour le renforcement de la démocratie, a annoncé le secrétaire d'État américain Anthony Blinken lundi en Afrique du Sud. Ces fonds seront déployés dans le cadre d'un mécanisme du Département d'État visant à favoriser des sociétés plus pacifiques, plus inclusives et plus résilientes dans des endroits où les conditions sont propices au conflit.
Merci Nanit. Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Confédération africaine de football a lancé sa Super League.
Oui, le lancement de cette compétition continentale a eu lieu hier à Arusha en Tanzanie, en présence des présidents de la FIFA, Gianni Infantino, et de la CAF, Patrice Motsepe, qui parle d'un futur tournoi beaucoup plus passionnant.
The African Super League.
La Super League africaine est l'un des développements les plus excitants de l'histoire du football africain. L'objectif en termes de ce que nous essayons d'atteindre est très clair. Le principal est de s'assurer que le football africain, il s'agit du football en club, est de classe mondiale, qu'il rivalise avec les meilleurs du monde.
Patrice Motsepe, président de la CAF, cette Super League africaine, qui devrait commencer en août 2023, est doté d'un budget de 100 millions de dollars. D'après un communiqué de la CAF, une partie importante de l'argent de la Super League de la CAF sera réinvestie dans le football africain et une autre partie du processus consiste à donner 1 million de dollars chaque année à chacune des 54 associations membres de la CAF en tant que contribution au développement du football et de la jeunesse. Pour le président de la FIFA, cette Super League africaine permettra de lever le niveau du football africain. Gianni Infantino.
There is a need in Africa, there is a need.
Il y a un besoin en Afrique, il y a aussi un besoin dans de nombreuses autres parties du monde d'amener le football en club au niveau supérieur. Pour cela, il est important d'être innovant, d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets et de les mettre en œuvre.
Gianni Infantino, président de la FIFA.
Le match d'ouverture du Mondial 2022 avancé d'un jour.
Le match d'ouverture officiel de la Coupe du Monde 2022 entre le Qatar, pays hôte, et l'Équateur aura lieu le 20 novembre au lieu du 21. C'est ce qu'indiquent des sources proches du tournoi, précisant que la FIFA et les organisateurs qataris ont accepté ce changement. Ces sources ont expliqué que ce match d'ouverture, initialement prévu le 21 novembre au soir, et aurait donc eu lieu après celui prévu en journée entre le Sénégal et les Pays-Bas. La décision, qui doit encore être entérinée par le bureau du Conseil de la FIFA, permettra de revenir à la tradition selon laquelle le premier match est disputé par le pays hôte. Dans le cadre de ce changement, le match Pays-Bas-Sénégal serait déplacé de quelques heures.
Un maillot de Michael Jordan proposé aux enchères.
Oui, un maillot porté par la légende de la NBA lors de sa dernière saison 1997-1998 avec les Chicago Bulls va être proposé aux enchères en septembre pour 3 à 5 millions de dollars. C'est ce qu'a annoncé Sotheby's, la maison new-yorkaise de vente aux enchères. La vente aura lieu à New York du 6 au 14 septembre. Le fameux maillot rouge flanqué du numéro 23 des Chicago Bulls, porté par Jordan, sera présenté au public à Monterey, en Californie, du 17 au 20 août, puis à New York durant les enchères de septembre, selon un communiqué de Sotheby's. 6 fois champion NBA avec les Bulls de Chicago, un inspirateur de la ligne de basket Air Jordan de Nike, propriétaire des Charlotte Hornets, le natif de New York, est considéré comme l'un des plus grands sportifs de tous les temps.
VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Washington a dévoilé lundi un document d'orientation qui annonce une refonte de sa politique en Afrique subsaharienne. En visite en Afrique du Sud, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a développé cette nouvelle vision stratégique pour le continent dans un discours à l'université de Pretoria. Il a assuré que les États-Unis veulent un véritable partenariat avec l'Afrique. Pour une analyse, Eric Manirakidza a joint à Pretoria l'historien et politologue camerounais Achille Mbembe.
L'Afrique n'a pas encore accédé au statut d'acteur géopolitique de façon pleine et entière. L'Afrique reste perçue comme une vaste zone portée vers des crises. Et de ce fait, c'est une région du monde passible de toutes sortes d'interventions de nature profondément humanitaire. C'est à peine si on peut entretenir avec cette région du monde des relations commerciales dignes de ce nom. Et donc l'Amérique n'est pas sortie de ce paradigme qui est enraciné dans sa politique africaine depuis très longtemps. Une des nouveautés, de mon point de vue, c'est évidemment l'identification d'un certain nombre de compétiteurs, je pense à la Russie, je pense à la Chine en particulier, que les États-Unis désignent maintenant comme, disons, des rivaux. Les États-Unis se gardent bien de dire aux Africains de se méfier des Russes et des Chinois. Mais c'est tout comme. Et donc, je ne vois pas du tout où se trouve la nouveauté.
Mais le secrétaire Blinken a dit que les États-Unis considèrent l'Afrique comme un partenaire égal et que Washington ne veut pas d'une relation déséquilibrée ou transactionnelle. Il y a quand même un changement.
Mais M. Blinken est un diplomate. Il a l'art d'utiliser des litotes. Cela fait partie de la diplomatie. Mais or, ces litotes, franchement, je ne vois pas en quoi est-ce que cette politique dite nouvelle est différente de celle qui fut appliquée, par exemple, sous l'ère Obama, ou même sous l'ère Clinton ou Bush premier en particulier. Disons que sur le plan commercial, quelque chose qui est de nature à attirer l'attention des Africains, c'est la mise en place d'un fonds pour les infrastructures qui s'élève à peu près 600 milliards de dollars. Mais encore faut-il voir comment est-ce que ce fonds pourrait fonctionner. Avec un tel fonds, il est effectivement possible de faire la concurrence à la Chine. Parce que, par exemple, la présence de la Chine en Afrique, c'est des choses très concrètes. C'est des ponts, c'est des aéroports, c'est des infrastructures lourdes que ni la Banque mondiale ni le FMI ne sont prêtes à financer, encore moins l'aide publique dite au développement. Et donc, une fois qu'on a, disons, écarté cette écran de fumée, je vois très peu de choses en réalité qui sont de nature à me convaincre que l'Amérique a changé de fusil d'épaule.
Vous parlez de la Chine, de ses financements, mais à quel prix?
Évidemment, mais ça c'est bon à poser aux gouvernements africains. C'est à un prix très élevé, c'est au prix de dettes colossales, c'est au prix de l'extraction tout à fait brute des matières premières africaines, c'est au prix de la destruction de la biosphère, c'est au prix de la dévastation écologique. Et donc, ces équilibres, il appartient aux Africains de bien les mesurer avant de faire leur choix.
Achille Mbembe, l'historien et politologue camerounais, joint à Pretoria.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Tchad, les acteurs politiques et de la société civile réagissent à l'accord de paix signé entre les groupes politico-militaires et le gouvernement sous les bons offices des autorités du Qatar. Cet accord prévoit un cessez-le-feu, la mise en place d'une opération de désarmement, démobilisation et réinsertion, ainsi que des conditions de sécurité pour les politico-militaires qui prendront part au dialogue à N'Djamena. Sur une soixantaine de groupes rebelles représentés à Doha, une dizaine a refusé de paraffer le texte. Notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadjingar, fait le point.
Cet accord n'est pas un accord parfait, mais qui a l'avantage d'être un accord qui aujourd'hui va mettre fin à la situation de guerre dans mon pays.
Saleh Kebzabo, vice-président du comité d'organisation du dialogue national inclusif, qui a conduit avec les autorités qataries les pourparlers de Doha pendant 5 mois. Il demande aux groupes politico-militaires, notamment le fait qu'ils ne se retrouvent pas dans cet accord, de revenir à de meilleurs sentiments.
Ça fait 60 ans que le Tchad vit dans une situation de paix armée et souvent de guerre. Et donc, moi, je crois qu'il faut apprécier ça parce que nous sommes dans la bonne direction. Et donc, nous pensons que c'est là aussi la dernière chance pour le Tchad. À ceux qui ont refusé de signer l'accord, je leur demande de penser un peu à leur pays, à la jeunesse du pays, au développement économique, culturel et social du pays. Il n'y aura jamais un accord parfait.
En revanche, une partie de la société civile apporte son soutien aux groupes rebelles qui ont refusé de signer l'accord de Doha.
Les politico-militaires disent que nous voulons un vrai dialogue sincère. Sur ce point, nous, ils ont notre soutien parce qu'ils prennent en quelque sorte ce que nous-mêmes réclamons en interne ici.
Maître Max Loalngar, ancien président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme et porte-parole de Wati Tama, un mouvement d'opposition.
Ils veulent que tout le monde rallie à ce qu'eux, ils ont proposé ici. Et ça, là, une société civile responsable, un citoyen responsable ne saurait l'accepter.
Le président du Conseil militaire de transition qui a fait le déplacement à Doha a promis de rentrer en héros avec les ex-protagonistes dans le même avion à N'Djamena. Des groupes d'accueil ont été constitué à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena, mais il n'en est rien. Abdraman Koulamala, ministre de la Communication, explique.
Les gens ont passé des années en exil, ils ne peuvent pas revenir comme ça, comme une valise qu'on va transporter. C'est des gens qui doivent venir avec leur honneur. Nous, on n'a qu'une seule parole et nous respecterons l'accord que nous avons signé. Les politico-militaires, comme l'ensemble des Tchadiens, trouveront un cadre transparent pour débattre de façon claire et précise de l'avenir de notre peuple de sa jeunesse.
Yassine Abderrahmane, président du parti réformiste, estime lui aussi que l'accord de Doha n'est pas basé sur la sincérité et le respect mutuel. Pour lui, le président du conseil militaire de transition, Mohamed Idriss Déby, doit dire clairement aux Tchadiens son intention.
Est-ce que sa mission, assurer la transition et organiser des élections libres, transparentes et partielles, où il voulait s'éterniser?
Parmi les groupes rebelles qui ont refusé de signer cet accord, il y a le fait de Mohamed Mahdi Ali qui pose comme condition, entre autres, la parité des délégués au dialogue national inclusif, la mise en place d'un nouveau comité d'organisation, la libération des prisonniers et la modification de la charge de transition. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM, au Tchad.
Au Burkina Faso, 15 soldats ont été tués mardi dans une double attaque à Namsigia, dans le nord du pays. Au lendemain de ces attaques meurtrières, les analystes et observateurs se posent des questions sur les moyens alloués à l'armée, mais des organisations proches de la transition espèrent une montée en puissance de l'armée. De Ouagadougou, Lamine Traoré.
Le double attentat, l'engin explosif improvisé qui a fait 15 soldats tués, s'est produit sur l'axe Bourzanga-Djibo lors d'une mission d'escorte d'une unité militaire. L'état-major a expliqué qu'un des véhicules du convoi a d'abord sauté sur un engin explosif à hauteur de la localité de Namsigia, région du centre-nord. Alors que s'organisaient les opérations de secours, un deuxième engin a manifestement été activé à distance, causant de nombreuses victimes, indique le communiqué. À Ouagadougou, on se pose de nombreuses questions. Adama Bayala, journaliste et analyste politique.
Aujourd'hui, vous l'aurez appris par le truchement du communiqué de l'état-major de notre armée qu'ils ont actionné un explosif à distance. Aujourd'hui, ils agissent au moyen de commandes à distance. Qu'avons-nous fait, nous autres, notre armée, notre hiérarchie militaire, en retour pour nos braves soldats? Les a-t-on dotés d'armes sophistiquées, efficients et adaptés. Les a-t-on dotés de robots pour le déminage? Ont-ils été précédés par des drones de surveillance et de renseignement? Ce sont autant de questions qui méritent de trouver réponse dans les jours à venir.
Maître Apollinaire Kielem de Tambela, juriste et analyste politique, pense que ce qui se passe au Burkina Faso est très clair.
Pour moi, il suffit d'équiper les policiers et les gendarmes, de rendre leurs différents postes opérationnels, et ils seront beaucoup mieux disposés à lutter contre l'insécurité actuelle, beaucoup plus que l'armée. En outre, en matière d'enquête, ce sont les policiers et les gendarmes qui sont mieux indiqués que les militaires. Or, le problème qui se passe, ce qui se pose, c'est que l'armée n'accepte pas qu'une équipe, la police et la gendarmerie, de certaines armes. Alors qu'elle se révèle incompétente pour faire face au mal qui se pose.
Marcel Tankwano, président du M21, une organisation de la société civile proche des militaires, reste optimiste sur les capacités de l'armée.
L'armée burkinabé, quoi qu'on le dise, monte en puissance. Aujourd'hui, l'armée est à l'offensive pure et dure. Et l'armée burkinabé recherche les terroristes jusqu'à leur dernier retranchement. Et donc, ce que nous vivons aujourd'hui, on peut le dire, ce sont des attaques résiduelles. La semaine dernière, il y a eu plus de 30 à une quarantaine de djihadistes et des terroristes tués. Et donc, il faut dire qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'armée burkinabé arrive à un niveau où c'est le maillage territorial aujourd'hui.
La semaine dernière, 13 personnes ont été tuées, dont 4 soldats et 9 supplétifs de l'armée, dans une embuscade à Bulunga, toujours dans le centre-nord du pays. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Cameroun, de nombreux dysfonctionnements entravent encore la traçabilité du diamant brut, ce que révèle une étude sur l'état des lieux et la cartographie de l'exploitation du diamant dans la région de l'est du pays. Cette étude, menée par le réseau de lutte contre la faim, a été présentée à Yaoundé hier. Sur place, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Des conflits armés en Afrique centrale sont encore alimentés par l'exploitation illicite du diamant et le Cameroun est souvent accusé de servir de corridor aux trafiquants. Daniel Maclair Elungna, secrétaire national permanent du processus de Kimberley au Cameroun, l'organisme étatique chargé de la traçabilité des diamants bruts.
Nous sommes satisfaits du travail qui a été présenté et nous contrôlons 850 km de frontières entre le Cameroun, la Centrafrique et le Congo où sont localisés la plupart des chantiers d'exploitation de diamants de notre pays et qui sont parfois des chantiers qui sont à cheval entre ces différents pays.
85% des chantiers situés dans les trois principaux départements diamantifères dans l'est du pays ne possèdent pas d'autorisation d'exploitation artisanale. 95% de la production est achetée par des acteurs informels. Sandrine Kouba, co-auteur de l'étude sur l'état des lieux et cartographie des sites diamantifères de l'Est Cameroun.
Beaucoup d'artisans ne connaissent pas la procédure qu'il faut suivre pour obtenir ces autorisations-là et aussi qu'il y a un problème de ressources financières. La troisième raison évoquée, c'est l'éloignement du lieu où ces autorisations-là doivent être produites et lieu d'exploitation.
Selon le résultat de l'étude, il n'existe pas de bureau d'achat de diamants agréés côté camerounais le long de la frontière avec la RCA. James Africa, l'unique société qui achetait officiellement le diamant au Cameroun, a fermé ses portes en 2016. En cause, la taxe à l'exportation du diamant jugée trop élevée. Cette taxe est passée de 2 à 10%. Duplessis Kouenzop, secrétaire exécutif de Dynamique Mondiale des Jeunes, une organisation de la société civile.
On devrait avoir un régime fiscal incitatif, mais lorsqu'il est plutôt décourageant, bien évidemment, les uns et les autres, en l'absence d'une harmonisation des taux au niveau de la sous-région, ils vont s'orienter vers d'autres pays.
Depuis 2020, le gouvernement a créé la Société Nationale des Mines, Sonamine, qui a la compétence exclusive de l'achat du diamant sur le sol camerounais. Mais les résultats sont à peine visibles. Ce défi de l'amélioration de la traçabilité du diamant au Cameroun est l'un des objectifs poursuivis par le réseau de lutte contre la faim. Selon les experts, une bonne politique de traçabilité d'au moins 50% du diamant brut produit dans les circuits formels apporterait la contribution de ce minerai à 10% au produit intérieur brut du Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Jemtap, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Seloudia. à la mise en onde de Fatouma Kalala Alimassi et à la console Jonah Kamitz. Bonne journée à l'écoute de